Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'ai le plaisir d'accueillir de nouveau à l'émission aujourd'hui notre amie Martine Breuillot qui, la semaine dernière, nous avait enchantés avec son récit d'un voyage organisé au Népal sous le thème du yoga et la randonnée au pays des neiges éternelles. Dans notre entretien cette semaine, Martine nous fait découvrir le lumineux destin d'une femme qui ne cesse de la fasciner et de l'inspirer depuis près d'un demi-siècle. Il s'agit d'Alexandra David-Néel, la première femme occidentale à entrer en 1924 dans Lhasa, la ville sainte bouddhiste jusqu'alors interdite aux étrangers. Réalisé à 56 ans, cet exploit exceptionnel ne sera qu'un des jalons d'une vie époustouflante, au cours de laquelle Alexandra sera tour à tour anarchiste, bourgeoise, bouddhiste, cantatrice, orientaliste, exploratrice, journaliste et écrivaine. En deuxième partie d'épisode, Michel Cousinat-Baudet répond dans sa chronique « Le corps en marche » à la question que plusieurs personnes affligées de douleurs au genou se posent. Doit-on arrêter de marcher et se mettre au repos complet? La réponse de Michel vous étonnera et vous rassurera. Je vous souhaite bonne écoute et bon voyage. Bonjour Martine et merci beaucoup de revenir nous voir pour nous parler cette semaine d'une femme tout à fait remarquable et au destin non moins lumineux, celui de Alexandra David-Néel.
Denis, bonjour. Lisandre, bonjour. Qui est au son? Ben écoutez, c'est gentil de me réinviter pour parler en plus d'une femme absolument... hors du commun.
Hors du commun, moi, extraordinaire.
Qui me fascine depuis que j'ai 15 ans. Je viens d'en avoir ça à 62. Vous voyez que ça fait un petit moment quand même que je la suis, que je la relis, oui. Que je retourne dans ses écrits.
Ben oui. Alors, aujourd'hui, lors de notre entretien, nous allons revivre avec vous certains des périples et des péripéties rencontrées par Alexandra et son fils adoptif, le lama Yongden, en route à pied vers la capitale tibétaine et beaucoup plus. Alors, c'est un beau voyage que nous allons faire ensemble. Mais d'abord, parlez-nous de cette femme dont le parcours de vie vous passionne et pour cause.
Eh bien, alors, Alexandra est née en 1868. Alors là, on est loin.
Oui.
Et son père était un professeur, puis après il a été journaliste, belge de naissance, et la mère d'Alexandra était une Française. Et ce couple-là s'est rencontré tard, certainement, et puis Alexandra est née tard dans leur vie. Puis ils avaient tellement d'autres préoccupations que leur fille était un peu laissée à l'écart. Donc, ce n'est pas des parents qui ont été très, très attentionnés.
Laissée à elle-même, dans le fond.
Laissée un peu à elle-même. Oui. Donc, on comprendra évidemment qu'elle s'est façonné son monde à elle. Mm-hmm. Et puis, au lieu de répéter un petit peu ce que faisaient ses parents, elle a tenu tête, finalement, sans trop leur dire. Mais elle s'est mise à étudier, à s'intéresser. Puis évidemment, la lecture faisait partie de son quotidien.
Oui,
c'est
oui,
comme ça qu'elle a commencé à rêver, Alexandra.
Et il y avait quelque chose d'intriguant, à mon avis. Elle s'inflige, lorsqu'elle est encore jeune, un nombre d'austérités extravagantes qu'on dit, les jeûnes, les tortures corporelles, les recettes puisées dans des biographies de saints ascètes. C'était pourquoi? C'est comment? Qu'est-ce qui l'a provoqué?
C'est une sorte de religion. Elle le dit dans l'un de ses livres, ne me demandez plus lequel, parce que je ne l'ai pas noté, mais le compagnon du moi intime, où est-il? Ça, c'est un de ses questionnements. Donc, elle s'oblige, comme je dirais les athlètes là, qu'on va voir aux Jeux Olympiques, et puis ça a été de tous les temps, il y a une discipline à adopter. Et elle adopte cet ascétisme, hein, qui est donc la rigueur, la discipline, bien se nourrir ou moins se nourrir, dormir. C'est pour elle un mode de vie nécessaire à ce que son esprit trouve l'éveil.
L'éveil.
Alors déjà, elle est, je dirais, allumée.
C'est ça, oui, tout à fait.
Elle est
vraiment
allumée. Et ces textes, parce qu'elle commence à écrire des articles, hein, qui paraissent dans des journaux, dans des revues. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'elle ne met pas à chaque fois son vrai nom quand elle signe l'article en question.
C'est un nom de plume.
C'est un nom de plume. Alors, elle passe de l'un à l'autre. Parce que, évidemment, quand on cherche ce moi intime, elle comprend tout de suite que l'individu qu'on est, avec le corps qu'on a, c'est juste ça. Mais le moi intime, c'est pas ce qu'on voit.
Ouais.
C'est plus profond que ça. C'est pour ça que le bouddhisme l'intéresse beaucoup, parce que c'est rare dans d'autres croyances, je dirais. Je peux me tromper, ne m'en veuillez pas. Mais dans le bouddhisme, notamment, on a cette quête, évidemment, la quête du Bouddha est d'une. Hein, on veut suivre. On veut suivre ses enseignements et savoir pourquoi on dit que ce Bouddha a atteint l'illumination. Et beaucoup de bouddhistes, beaucoup de Rinpoché l'ont certainement atteint, justement, par cette persévérance.
Oui. Et c'est la raison, probablement, pourquoi elle se convertit au bouddhisme à l'âge de 21 ans.
Oui, elle est jeune, on peut dire, parce que là, c'est la majorité, est à 21 ans. Donc là, ça y est, elle a décrété que elle devenait bouddhiste.
Oui.
Puis elle est allée étudier, donc elle a étudié, comme vous disiez, hein, plusieurs langues, dont l'anglais. Elle est allée en Angleterre apprendre l'anglais.
C'est ça.
Elle a appris le sanskrit, le tibétain.
Oui.
Et puis elle se dit, moi je veux y aller. Puis à 22 ans, elle fait son premier voyage en Inde.
Elle était, en fait, elle était un peu indépendante, comme vous disiez tout à l'heure. On rapporte que jeune, elle était en vacances avec ses parents à Ostende, en Belgique. Et elle fugue. Elle gagne un port aux Pays-Bas pour essayer de se rendre en Angleterre à 15 ans.
Oui, oui. Ah oui, c'est une femme, une jeune fille, déjà très déterminée.
Oui.
Très déterminée, et puis comme il peut y en avoir encore aujourd'hui, et puis qui suivent le chemin qu'elle sent être dans son cœur.
Oui.
Puis le cœur, c'est pas le cœur physique, là. C'est vraiment au niveau du plexus solaire. Hein,
oui.
Comme elle est bouddhiste, évidemment, elle a toute cette définition et tous ces termes qui résonnent
en elle. C'est bien ancré
en
elle.
Oui, voilà. Oui. C'est les chakras, là. Et puis c'est ce cœur-là qu'elle suit.
C'est ça, oui.
Oui.
Il y a un autre aspect de sa vie, de sa biographie, qui nous apprend qu'elle étudie le piano et le chant au Conservatoire royal de Bruxelles. Elle devient cantatrice et là, elle rencontre Philippe Nel à Tunis lors d'une tournée.
Ça, c'est pareil, là, elle devient une cantatrice. Donc, bon, quand on lit les écrits, qu'on n'a pas forcément lu de biographie, c'est pas forcément dans ses écrits, justement, d'après cette période-là de sa vie.
Mm-hmm.
Donc, cantatrice, elle devient la première chanteuse à l'Opéra d'Hanoï.
Bon.
Alors, on se dit, quel début ? Quel début ! Mais déjà, elle s'impose avec la voix. Hein? Donc, y a déjà quelque chose, et il y a tout un travail. Puis, c'est très intelligent. Je ne sais pas d'où elle tient cette envie de faire de la musique. C'est très intelligent parce que ça va lui permettre de gagner sa vie pour pouvoir
de
faire
voyager
ses voyages.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Donc, elle commence avec Hanoï. Puis, bon, évidemment, la tournée se fait dans d'autres pays, dont la Tunisie. Puis, c'est à Tunis qu'elle rencontre Philippe Nel, qui va devenir son époux.
Son époux.
Voilà.
Son amant d'abord et ensuite son époux.
Son amant d'abord et ensuite il se marie. Elle a 36 ans à l'époque.
Alors, c'est le 4 août 1904. Elle se marie. Elle ne veut pas d'enfant parce que c'est incompatible avec son besoin d'indépendance et le goût des études et du voyage.
Ben, c'est ça. Ben oui, elle sait vraiment. Puis elle sait, mais en même temps, elle n'a pas le conjoint qui va pouvoir la suivre dans ses pérégrinations.
Ah, il y a ça aussi, oui.
Parce que peut-être qu'elle imaginait, ah ben, il va pouvoir venir avec moi, et puis lui, il imaginait, ça va être une femme mondaine, on va pouvoir recevoir à la maison, elle pourra recevoir ses dames pour le thé, tout ça, puis Alexandra, c'est pas trop son truc, ça.
C'est peut-être la raison pourquoi ils ont une vie commune peut-être orageuse, mais quand même, on dit, empreinte de respect.
Ah,
quand
toujours.
Même, hein, toujours.
Ça, c'est... Ouais. Ça, oui, ça a été sûrement orageux, avec une femme comme elle, qui a tout un caractère, hein, mm-hmm. et puis oui. de toutes les époques, on dira d'elle qu'elle n'était pas commode. Donc, très exigeante envers elle-même, envers les autres, évidemment. Mm-hmm. Et quand elle voulait quelque chose... Il fallait que ça lui soit accordé.
Oui. oui.
Donc, c'est sûr que ça a dû... Il y a dû y avoir quelques petites heures, des crispations, des... Et puis, elle lui parlait toujours de ses voyages. Donc, un jour, il lui a dit, après quelques années de mariage quand même, il l'a incité à réaliser ses voyages et le travail pour lequel elle était faite. Donc, partir en Orient pour faire ses recherches, parce que c'est une femme de terrain, ça ne faut pas l'oublier.
Oui, oui, oui.
Hein, elle ne s'en va pas dans les bibliothèques et faire ses recherches. Et puis, elle, il faut qu'elle soit sur le terrain.
Alors, on peut dire que, justement, incitée par son mari, c'est son troisième voyage en Inde qui, au départ, était de quoi? De quelques semaines et qui a duré 14 ans.
Mais oui, elle partait pour 8 mois, 8-9 mois.
8-9 mois, pardon, oui, oui.
Et elle est revenue au bout de 14 ans.
Oui, et son mari l'encourageait toujours.
Son mari l'a soutenue jusqu'à son dernier jour.
Oui.
Hein, quand à chaque fois... Puis on le voit, puis moi je trouve que si les gens sont vraiment intéressés à lire Alexandra Davinel, évidemment il y a une biographie. Je parle déjà du journal de voyage.
Journal de voyage.
Alors,
oui.
vous allez trouver ça dans n'importe quelle librairie, puis ça peut être en 3 tomes, en un seul. Bref,
ah oui, oui.
c'est jour après jour, comment elle aborde son voyage.
Ah oui.
Et les demandes qu'elle fait, parce qu'elle lui parle en fait, c'est la correspondance entre Alexandra et son mari Philippe. Et ça, elle n'y avait pas touché en fait. Elle avait ramené les lettres de Philippe, et lui avait gardé les siennes, elle a tout retrouvé, et au moment où elle a dû rentrer en France, elle a demandé à sa gouvernante, mais on parlera plus tard de Madame Perronnet, elle lui a dit, écoute Tortue, parce qu'elle l'appelait Tortue, j'ai vraiment pas eu le temps de replonger dans ces 3000 et quelques lettres. Fais quelque chose avec ça. Je te laisse faire.
C'est ça.
Je te fais confiance.
Oui, oui.
Donc, en fait, c'est Madame Perronnet qui a fait le montage des échanges entre cet homme et cette femme, qui résume vraiment la vie d'Alexandra et les besoins qu'elle avait au fur et à mesure.
Les besoins émotifs.
Eh ben, les besoins
intellectuels.
Oui, mais les besoins intellectuels qui l'a poussée à ne pas rentrer. Elle lui dit, oui, je sais, mon mouchi, que tu t'aimerais certainement que je rentre, mais vois-tu, si je me devais me priver de ma prochaine escale pour continuer ma recherche, ça serait terrible pour moi, je pourrais jamais finir mon travail.
Oui.
Donc ça, on comprend tout en lisant cette correspondance. C'est fabuleux. Alexandra, elle avait la chance d'avoir un mari qui l'encourageait dans ce qu'elle voulait faire. Donc, il est certain qu'à chaque fois qu'elle avait de l'argent à demander, ben, c'est à lui qu'elle demandait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, les femmes seules n'avaient pas de compte en banque. C'était pas encore la décrétée, c'était pas la loi, c'est arrivé en 65. Donc là, on est en 1912. Hein. Alors, on est encore loin. Et puis, il faut pas oublier non plus qu'Alexandre, elle travaillait, même si elle parcourait l'Orient, elle travaillait, puis les articles, elle les envoyait aux journaux en France. Et puis, ben, évidemment, elle était rémunérée pour ça, puis c'était envoyé sur le compte joint. Donc, ben, c'est lui qui faisait la transaction, parce qu'évidemment, elle, là où elle était, elle pouvait pas faire ça. Et puis, même s'il avait aidé sa femme... Quel problème? C'est parce que ça a été écrit, puis des fois, les gens étaient un petit peu agacés avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal qu'un mari veuille aider sa femme? Alors, voilà.
Donc, elle est partie à l'âge de 43 ans.
Oui.
J'aime beaucoup noter le temps, l'âge, parce qu'on verrait à la fin, là, c'est une femme qui a vécu longtemps et pas mal d'aventures de toutes sortes.
Oui.
Donc, à 43 ans, elle part dans son périple indo-tibétain et, entre autres, elle rencontre le Dalaï Lama.
Le 13e Dalaï
Lama. Le 13e. Et ce que je trouve cocasse du Dalaï Lama, c'est qu'il n'avait jamais accordé d'audience à une femme occidentale.
Ben non.
Et c'est tout un honneur, tout un événement.
Ben c'est tout un honneur, puis c'est parce que c'est aussi très rare. C'est très rare. Mais ce que les gens remarquaient là-bas, puis les plus érudits, hein, c'est la connaissance de cette femme, la connaissance qu'elle avait du bouddhisme et qu'elle voulait approfondir, la connaissance du sanskrit, du tibétain. Ben, une femme qui arrive de si loin, ça a beau être une femme, elle a beau être blanche, ils ont de l'admiration
oui.
que quelqu'un, parce que quelqu'un s'intéresse mm-hmm. au bouddhisme d'origine, en fait. Parce que elle, ce qu'elle allait faire, justement, c'est sa recherche pour rappeler ce qu'était le bouddhisme à l'origine. Mm-hmm. Et pas ce qu'on traficotait peut-être dans certains monastères, puis qu'on remettait un peu à sa sauce. Hein, donc, il n'y avait pas trop grand monde qui vérifiait tout ça. Donc, ça pouvait avoir des petites nuances un peu différentes. Mais elle veut aller à la source.
Ça vraiment. Lui a ouvert toutes sortes de portes, un univers complet. Là.
Oui. Complètement. Puis c'est des gens, je vous le dis, qui ont, pour certains, qui ont atteint l'illumination. Donc, mm-hmm. ils comprennent sa quête.
Oui.
Ils comprennent sa quête.
1914, une autre date qui va marquer sa vie, elle rencontre le jeune Yong Ten, qui deviendra, en 1929, son fils adoptif.
Eh bien oui. Il a 14 ans pourtant, il est tout jeune. Mm-hmm. Hein, mm-hmm. C'est un lama, donc quand on dit que c'est un lama, c'est qu'il a déjà atteint un niveau de conscience, je
de
dirais,
conscience.
Élevé. Mm-hmm. Hein, donc il est vraiment reconnu. Justement. Oui, c'est, oui. C'est ce jeune-là qui... Puis il voit en cette femme... Lui, il est un peu délaissé par la famille aussi. Donc là, il se dit, comme beaucoup de jeunes souvent qui... pas dire qui atterrissent, mais qui arrivent dans des monastères. Ils sont pris en charge par les moines du monastère. Mmh. Puis, on leur enseigne, évidemment, ce qu'est le bouddhisme.
Oui.
Mais là, quand tout d'un coup, il voit Alexandra, ben, c'est sûr qu'il va vers elle. Parce que lui, déjà, il est aussi allumé.
Oui.
Et puis, il voit qu'elle aussi. Donc, on va dire que ça flamèche entre eux. Là. Et puis ben, va s'en occuper comme de son fils, hein, s'il avait une intelligence aussi qui lui plaisait beaucoup.
Ben oui.
Mais Alexandra, elle a trouvé refuge en fait avec Afu Yongden dans une grotte au Sikkim. Alors le Sikkim était environ 300 km du Tibet. Alors c'était pas si loin, mais c'était quand même pas trop près. Alors elle avait auparavant suivi des enseignements avec un maître tantrique. Donc, on peut supposer qu'elle voulait mettre en application ce qu'elle avait appris pendant ces enseignements-là. Mais ce sont les Anglais qui sont venus la déloger parce qu'elle était trop près, malgré tout, du Tibet et puis qu'elle n'avait pas la permission d'être là. Donc, c'est certainement ça qui l'a titillée en disant « Comment ça, il me faut une permission pour rentrer à Lhasa ? Vous allez voir. » Et puis, ben, c'est comme ça qu'elle est partie pour Lhasa.
Alors, c'est là où on arrive au cœur de notre entretien aujourd'hui, je pense. C'est son séjour incognito à Lhasa, c'est-à-dire le trajet pour se rendre à Lhasa, qui est tout à fait incroyable.
Ben, c'est parce qu'elle ne peut pas y aller directement de l'Inde. Le Sikkim, c'est en Inde, mais la façon dont dont les territoires étaient partagés à l'époque, il fallait qu'elle fasse un détour. Mmh. Donc, c'est sûr que ça lui a pris... 4 mois de pouvoir être là et d'être libérée de tous ses bagages. Parce qu'Alexandra, à chacun de ses voyages, ce qu'elle faisait, ben c'est évidemment, elle rapportait des statuettes, des tankas, des crânes, des morceaux de fémur, parce que c'est des choses qu'on trouvait dans la nature et puis qui faisaient partie de la culture tibétaine aussi. Parce que là, je parle plus du Tibet, mais on en trouvait aussi en Inde, et parce que c'était comme ça à cette époque-là. Et là, elle doit tout laisser. Donc, elle met ça quelque part, hein, comme on mettrait
confier
ça dans un container
quelque part.
Gardez-moi ça pendant que je m'en vais à Lhasa. Et puis, la voilà partie. Alors, avec 2-3 mules. Et puis, ses aides, hein, parce qu'évidemment, une femme ne voyage pas toute seule. Et puis, le jeune Yong Ten aussi, hein, qui l'accompagne partout. Donc, bon, alors, elle va passer 4 mois à crapahuter.
Avec Yongden, justement,
avec
les deux.
Yongden, c'est oui, dans le, puis souvent dans la neige.
Il y a la neige, il y a le froid glacial.
Il y a le froid glacial, et puis il y a c'est abrupt, hein, c'est des montagnes.
C'est ça. Et elle était déguisée en pèlerine mendiante. En fait, pas trop de vêtements, évidemment.
Pas des vêtements qui auraient pu faire en sorte qu'on remarque que c'est pas tout à fait quelqu'un de la place.
Oui.
Donc, si elle avait eu l'air d'une Européenne ou d'une Indienne ou autre, ben, ça n'aurait pas marché. Donc, elle prend les vieux habits, un vieux bonnet, je ne vais pas appeler ça un bonnet, chapeau, qu'elle a trouvé, qui était sûrement tombée à la suite d'un décès de quelqu'un, d'un homme. Mmh. Et puis même, c'est Yongden qui lui dit, non, mais vous ne pouvez pas garder ça, surtout là, jeter ça, ça porte malheur. Là, t'occupe pas. Elle met ça dans son sac, et puis, ben, le moment venu, elle l'enfile. Mmh. Et puis, elle se met de la cire noire avec de la graisse sur le visage, parce qu'évidemment, elle est trop blanche.
C'est ça.
Elle est trop blanche, donc... Et puis, elle prend un mala, qu'on pourrait appeler un chapelet également, hein, qui contient les 108 perles qu'on égrène en récitant le Om Mani Padme Hum. Mm-hmm.
Oui.
Et bah, c'est ça. Elle arrive, elle se courbe, et puis finalement, bah, elle arrive à rentrer comme ça à Lhasa. Et le jeune Yongden, évidemment, il y a des gens qui sont à la frontière, hein, qui surveillent quand même un peu. Il lui dit, faites pas attention, c'est ma vieille mère, elle perd un peu la tête. Puis tout le temps, elle récite le Om Mani Padme Hum, elle est toute courbée, comme ça, il ne voit pas ses yeux. Puis,
elle avait toujours la hantise de se faire prendre au jus, là.
Ah ben, c'est sûrement. Ça ne peut pas être autrement.
Mais
ça aussi, c'est quelque chose qui va au-delà de qu'en tant qu'humain, on ne peut pas toujours saisir. Il y a quelque chose de plus fort, de plus haut, de plus grand, qui nous emmène là où on doit aller. C'est peut-être stupide à dire, mais je le sens à travers toutes ces conquêtes de territoire. Moi, quand je suis au Népal et que je m'en vais dans la grotte de Padmasambhava, là, j'imagine très bien Alexandra, là, assise là, et puis elle vit ce qu'elle a à vivre, parce que c'est là qu'elle doit être.
Mais elle a 56 ans.
Oui.
Elle doit souffrir un peu là, du froid, de l'eau, du manque de nourriture.
Ah, ben elle a manqué de nourriture, oui.
C'est ça.
Oui, oui. Il y a des périodes où les gens qui étaient avec elle faisaient bouillir des racines, puis c'était ça le repas.
Oui, oui.
Ah oui, oui. Donc, évidemment, puis elle faisait de l'arthrite. C'était pas une femme qui était une sportive, et puis le froid.
Elle couchait par terre. Elle a visité des paysans, et c'était vraiment, comme on dit, la misère noire. Là.
Ben oui.
Ben, c'était naturel là-bas, c'est sûr.
Ben oui, ben, c'est parce que les gens vivent comme ça.
Ben, c'est ça,
ils vivaient comme ça.
Oui, oui.
Vivaient comme ça. Donc, c'est certain qu'elle n'a pas eu un confort extrême.
Oui, oui.
Hein, à part quand, comme je disais, où elle était invitée dans quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire.
Mais elle était quand même astucieuse. Il y a un endroit dans leur périple jusqu'à Lhasa où ils ont rencontré des bandits.
Oui.
Hein? Et puis là, elle a réussi à leur quasiment leur faire prendre la poudre d'escampette et puis de lui remettre en fait j'ai un peu de nourriture, je ne sais pas là, mais c'est incroyable.
Ah,
une force de caractère.
Une présence hors du commun.
Oui. Oui.
Et elle dégageait une autorité qui pouvait faire peur à des brigands, ça c'est certain, parce que d'abord pas étonnée de rencontrer quelqu'un comme ça, même si elle avait une voix assez forte, vous voyez bien quand même que c'était une femme.
Oui.
Donc, c'était Madame Nell, David Nell, c'était... Pour le commun des mortels, c'était quelque chose de pas ordinaire.
Oui.
Donc, est-ce qu'ils pensaient qu'elle arrivait de je ne sais où parce que justement, avec cette force et puis cette détermination, c'était l'audace de faire tout ce qu'elle a fait, de dormir là où elle a dormi, de manger, tout était... Puis cette santé précaire, justement.
C'est ça, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on aurait tellement d'équipements de toutes sortes, pour faire le même trajet, si on aurait même l'idée d'amorcer un trajet comme celui-là.
Ben, je sais qu'une jeune femme qui est réalisatrice, écrivaine aussi, Priscilla, excusez-moi, son nom de famille m'échappe, je ne suis pas fière, Priscilla Delmont, il me semble, qui, comme moi, elle est plus jeune que moi, mais elle est aussi, comment dire, Alexandra la guide, aussi, et elle a voulu refaire le trajet qu'Alexandra a fait pour rentrer à Lhasa. Donc, cherchez-la sur Internet, parce que ça doit être une fille extraordinaire.
On mettra des renseignements sur le site.
Oui, exactement. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites références comme ça de gens qui ont eu un besoin à un moment de leur vie. Puis comme Alexandra, je tiens à faire une précision, souffrait de ce qu'on appellerait aujourd'hui de burn-out. Alors, il y avait des périodes dans sa vie... qu'elle soit en ermitage, en France ou n'importe où, ben, vous savez, hein, quand ça vous prend, des anxiétés, pas de courage, pas de force, fatigué, un sommeil non réparateur, enfin bon, tout ce qu'on vit quand on est dans cet état-là, et elle l'avait ça, depuis toute jeune.
Oui.
Donc, c'était un combat en plus, quand on n'est pas chez soi, là, bien confortable dans sa couette, là, et puis qu'on souffre de ses anxiétés, mais que là, on est dans un ermitage en plein vent, et puis qu'il n'y a pas de chauffage, hein, il n'y a rien de tout ça.
Par contre, il y avait des paysages spectaculaires qu'elle raconte de façon merveilleuse.
Ça, là, l'Himalaya, c'est pour elle... C'est vraiment, on voit que c'est vraiment son domaine. Mm-hmm. Parce que dès qu'elle retourne, parce qu'elle a continué évidemment toute son évolution, puis ses recherches, que ce soit au Japon, Vietnam, en Birmanie, elle a été beaucoup. L'Orient, c'était sa maison. Mm-hmm. Mais elle revient toujours sur l'Himalaya.
Parlant de maison, il y a le retour en France. Nous prenons une courte pause musicale et on se rend à Digne-les-Bains.
Entendu.
Nous sommes en compagnie de Martine qui nous parle d'Alexandra. Tiens, c'est joli. Alors Martine, c'est le retour en France et elle se cherche une maison.
Et oui, elle arrive dans le sud de la France et ben là, elle change complètement de climat. Hein. Et puis, quand on quitte le Tibet et puis les montagnes. Mais elle le retrouve encore parce qu'évidemment, il lui faut un endroit où il y a un minimum de montagnes. Donc, elle les appelle ces montagnes lilliputiennes. Et elle s'en va dans le sud de la France. Oui. Et puis, c'est là qu'elle trouve une maison, hein, Digne-les-Bains. Donc, elle est lit-domicile. Elle finit par pouvoir s'acheter cette maison à la suite de son périple qui fait qu'elle rentre à Lhasa. Parce que là, comme elle est la première femme à avoir accompli ça, là, on la reconnaît en tant qu'orientaliste et femme de tête qui a réussi. Alors là, tout d'un coup, tout le monde l'invite pour des conférences. On veut la voir, la prendre en photo avec son fils. Enfin bon, elle est invitée partout. Et évidemment, ses livres sont demandés puis traduits dans plusieurs langues.
Oui.
Donc là, elle commence à avoir de l'argent. Parce qu'à cette période-là, son mari n'est plus. Lui, il est décédé. Hein, il est décédé en 55.
En fait, on dit qu'il meurt en 1941.
41,
déjà,
ouais. Excusez-moi, c'est Yang Den qui meurt en 1955, c'est ça. Oui. Excusez-moi. Oui, donc lui, ça fait déjà un petit moment qu'il est décédé. Donc là, elle a plus de fond, quoi.
Elle est seule.
Oui. Voilà, il n'y a plus que ce jeune Yang Den. Et puis, elle arrive quand même à rentrer et à acquérir cette maison qui va devenir vraiment son lieu de méditation, le Samten, elle l'appelle Samten.
Oui,
donc
oui.
C'est là qu'elle se retrouve à chaque fois qu'elle revient, qu'elle va écrire et écrire et écrire, et puis qu'elle va mourir aussi. On n'en est pas tout de suite là.
Oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a beaucoup encore de voyages et d'écriture et tout ça. Un peu plus tard, il y a le périple chinois et la retraite tibétaine, le Tibet la rappelle, la Chine.
Ça la rappelle. Elle arrive en fait en Chine, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a éclaté en Europe. Et puis là, on est en guerre aussi en Chine. Donc évidemment, elle tombe à un moment où c'est peut-être pas le bon moment. Et elle décide de repartir vers le Tibet, quoi, de s'éloigner de la Chine, là, puis de revenir plus vers le Tibet. C'est vraiment cet endroit, puis cette culture-là. Le bouddhisme, bon, il y a du bouddhisme en Chine aussi. Elle a trouvé le bouddhisme un peu partout. Sauf que elle, c'est vraiment le bouddhisme tibétain.
Original.
C'est ça, ouais. Et oui, ça, c'est vraiment très important.
Oui.
Donc, puis évidemment, il y a plein de... Il y a aussi dans la culture tibétaine bouddhique différentes écoles, parce que elle va rencontrer des lamas ou des gens plus élevés dans l'érudition, je dirais, qui sont des bonnets jaunes, des bonnets rouges et des bonnets noirs. Donc, elle fait la part des choses entre tous pour aller trouver vraiment l'essence à travers tous ces voyages et toutes ces rencontres.
Oui, oui. On mentionnait la mort de Philippe tout à l'heure. Donc, il meurt plutôt en 41. Et c'est en 45, quelques années plus tard, qu'elle décide de retourner en France, encore une fois, avec Young Dan, et
là,
de s'établir un petit peu plus. Les racines sont plus profondes.
Oui, là ça commence aussi à être un petit peu fatiguée, parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle passe d'un pays à l'autre, qu'elle marche, qu'elle dort mal, qu'elle a mal,
Elle a 78 ans quand même.
Quand même, à 78 ans, écoutez, j'espère que je serai aussi alerte qu'elle.
Nous tous et toutes, oui. Donc, c'est vraiment une période d'écriture, là.
Oui,
là,
c'est une période d'écriture.
Les livres merveilleux qu'on peut lire.
Ah oui, puis bon, c'est une dame qui avait tellement de notes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des périodes, notamment celle pour entrer à l'Assa, là, elle s'était départie de toutes ses affaires.
Oui.
Donc, elle avait quand même beaucoup de notes et autres, mais là, pour rentrer à l'Assa, on ne rentre pas avec tout un arsenal.
Oui.
Donc, elle avait des petits carnets de notes pour retenir les noms des personnalités qu'elle rencontrait, parce que c'est quand même pas à l'oreille des noms faciles à retenir. Puis elle voulait s'en souvenir pour ses écrits. Donc, c'est la mémoire qu'avait cette femme aussi, moi, qui me fascine. Parce qu'elle pouvait séjourner des mois à un endroit sans avoir le nécessaire pour écrire. Mais elle rentre plusieurs années après en France et là, elle écrit. Donc, elle sert de ses petits calepins. Puis, on les voit quand on va à sa maison à Digne.
Ah oui?
Oui, oui. C'est vraiment un pèlerinage à faire, moi, je trouve.
On le fera tout à l'heure.
Ah, ben oui.
pour quelques minutes. Et puis, c'est ça. Alors, beaucoup d'écriture. J'imagine qu'elle marche quand même un peu autour dans cette nouvelle,
nouvelle
campagne.
Oui. Puis, les montagnes ne sont pas loin. Donc,
c'est ça,
elle fait des grandes randonnées.
Et brusquement, elle perd Young Dan.
Eh bien oui, hémorragie cérébrale.
Ah oui.
À 55 ans, il n'est pas vieux.
Ben non.
Puis c'était vraiment... je veux dire, elle perd son meilleur ami avec le décès de Philippe. Et puis Young Dan, là, ça c'était sa tête à penser et c'était son lien avec le Tibet.
Son miroir aussi.
C'était son miroir, parce que lui, évidemment... Puis lui, il l'aidait à traduire parce qu'elle le parlait, mais bon, il y avait des petites nuances. Quand on passe d'une communauté à l'autre, il y a des nuances dans les langues.
Oui.
Donc, dans les langues tibétaines, c'est pareil.
J'imagine qu'en route vers Lhasa et tout au long de leur vie, ils ont dû avoir de merveilleux échanges.
Ah. C'était toujours intellectuel. C'était intellectuel, puis en même temps, il ne faut pas tout intellectualiser, justement. Il faut ressentir. Donc, et puis, il faut apprendre dans ces cultures-là à penser différemment que nous, par exemple. Pour atteindre l'éveil, là, nous, si on garde notre mode de pensée, là, on a peu de chances de l'atteindre.
Vous voulez dire quoi?
Comme l'entendent les bouddhistes.
Ah oui.
Il faut vraiment que le réel moi jaillisse, mais il faut savoir le faire jaillir.
Mm-hmm.
Parce que nous, on a une enveloppe. Puis quand l'enveloppe va être abîmée, elle va partir. Mais il y a autre chose qui va rester, qui va circuler. Donc, parce qu'évidemment, elle a écrit un livre sur les réincarnations. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il y a le voyage des esprits. Enfin, je le dis dans ce terme-là, ce n'est pas le titre exact, mais c'est comment l'esprit voyage. Et puis, pour l'avoir vécu auprès de communautés tibétaines, à Dharamsala, les gens peuvent mourir, mais leur corps reste. Il y a quelque chose de cérébral où le cœur, où justement le cérébral meurt, mais le cœur continue de battre. Je ne peux pas vous l'expliquer parce que j'en suis pas encore là, mais il y a des scientifiques qui étudient ça.
C'est vrai, oui.
Ah oui, ça c'est des recherches très, très, très approfondies. Puis moi j'avais lu il y a longtemps un livre sur les maîtres de l'Himalaya. Là, je lis ça, mais je me dis comment est-ce possible? Parce qu'on est des sceptiques. Ce qu'on ne vit pas, on a du mal à le croire.
Oui.
Donc, ces maîtres qui sont dans l'Himalaya, on leur rend visite, comme Alexandre a fait. On leur rend visite parce qu'on est scientifique, on veut savoir. Ben oui, alors ils s'en vont au village voisin, mais le maître, il est resté dans le village, puis eux, ils sont partis. Sauf que quand ils arrivent, il est déjà là. Une façon de se déplacer autrement, c'est l'esprit qui...
Oui.
Ce moi.
Oui.
Ce moi intime.
Oui. Elle est toujours pleine de projets. d'activité ou quoi que ce soit. On l'a dit tout à l'heure, Youngden meurt en 55. Donc, à 87 ans, mais quand même 87 ans, ça m'étonne toujours,
oui.
Elle se retrouve définitivement seule. Et, ce qui est encore étonnant, à presque 100 ans, et c'est cocasse un peu, c'est en mai 68, donc ça nous rappelle toute une époque, mais à cette date, elle compte retourner au Tibet et elle fait renouveler son passeport à 100 ans.
Ben oui. Alors là, il s'est passé quand même quelque chose entre la mort de Youngden le moment où elle a cette envie de retourner au Tibet. Elle a une femme de ménage, mais la femme de ménage, ça fait quand même longtemps qu'elle est là aussi, donc elle vieillit. Puis là, il lui faut quelqu'un, parce que Youngden, lui, il écrivait des choses pour elle, il faisait des recherches.
Ah oui,
quand elle lui disait, va dans telle bibliothèque, à telle place, avec le livre est vert ou rouge ou bleu. Puis il trouvait tout de suite. Donc là, il lui fallait cette aide parce qu'elle était clouée ou au lit ou dans son fauteuil. Elle avait tellement de rhumatisme qu'elle ne pouvait plus descendre de son petit bureau. Et il lui faut quelqu'un. Apparaît Madame Marie-Madeleine Perronnet.
La voici.
La voici qui arrive. Aussi déterminée qu'Alexandra, mais elle a 29 ans et elle tient tête à Alexandra.
Oh là là.
Et Alexandra aime ça. Aussi curieux que ça puisse être.
Non, c'est pas curieux du tout, non.
Elle lui dit, toi, t'as du caractère, j'aime ça. Donc, cette jeune femme de 29 ans devient la secrétaire, la gouvernante, on pourrait... Bon, elle vit au quotidien avec Alexandra, du lever au coucher. Puis, il y a des fois, la nuit, Alexandra, elle a ses petites sonnettes, là.
Ah oui?
Et puis, elle réveille Marie-Madeleine, qu'elle appelle Tortue. Je sais pas si c'est combien ça, comment ça lui est venu. Non pas qu'elle n'est pas rapide, cette dame, parce que je l'ai rencontrée, mais elle c'était une dame, elle avait 75 ans quand je l'ai rencontrée, mais elle était encore très, très vive.
Donc elle l'appelait la nuit pour parler pour...
Non, tout d'un coup, elle a une idée, là. Peux-tu me redresser dans mon lit, il faut que j'écrive.
Ah,
ou alors, peux-tu m'amener tel livre qui est en bas dans la bibliothèque. Bon, c'était comme ça. Puis elle lui avouait un respect, mais... Incroyable.
Et elle a contribué à la rédaction, là.
Ah, ben oui, comme je parlais tout à l'heure de la correspondance, il y a des choses qu'elle n'avait pas le temps de faire. Bon, c'était Tortue qui faisait.
Et c'est grâce à Tortue qu'on peut la lire aujourd'hui.
Et c'est grâce à Tortue qu'il y a des choses dont on dispose aujourd'hui. Elle a même écrit un livre, Tortue. Madame Perronnet, elle a écrit un livre sur ses 10 ans avec Alexandra Davinel. Très intéressant à lire.
Oui. Parmi les références dont on va parler tout à l'heure, parce que le temps file, on s'amuse tellement. Mais tout ça pour dire que Alexandra meurt le 8 septembre 1969 à son domicile de Digne-les-Bains à presque 101 ans.
Et oui.
Quelle vie.
Quelle vie. Et la veille, Madame Perronnet lui avait refait son chignon pour la nuit, puis s'est endormie, en fait.
Tout calmement. C'est une belle façon de partir après
ah ben oui, écoutez, on aimerait tous ça.
Oui.
Bon. Et c'est elle-même, Madame Perronnet, qui a emmené les cendres de Youngden et d'Alexandra Davinel à Bénarès pour les remettre au Gange.
Waouh!
Parce qu'Alexandra tenait à rester avec son fils adoptif.
Oui.
Et puis à partir de là, une fois qu'elle a remis les cendres, Madame Perronnet a fait une partie du voyage au Sikkim et puis est allée dans la grotte où l'ermitage où Alexandra était allée.
Martine, vous avez visité la maison?
Oui, à Digne, oui, bien sûr, ça fait partie d'un de mes pèlerinages.
Ah oui. Qu'il faut faire.
Moi je pense qu'il faut faire parce que quand, vous savez, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur.
Oui.
Mais faut libérer ce cœur-là en accomplissant.
Oui.
Il faut libérer ce cœur-là en accomplissant ce qu'on a à faire.
Oui.
Je trouve que dans nos vies, on a beaucoup de retenue.
Oui.
Et qu'il y a des voies qui sont devant nous, mais qu'on n'emprunte pas pour toutes sortes de raisons.
Oui.
Mais il faut les emprunter absolument. Puis ça fait même partie d'un projet, moi, de commencer par aller en France à Digne pour visiter la maison d'Alexandra, puis s'imprégner déjà de son univers, parce qu'évidemment, dans toutes ces caisses qu'elle avait laissées avant de rentrer à la Sarre, quelqu'un ramène tout ça.
Et là, on parle de voyage que vous allez organiser. Là,
oui, c'est ça.
Et vous allez amener vos participants à Lhasa, peut-être?
Mais moi, j'aimerais beaucoup les amener, au moins aller voir les endroits au Népal, au Sikkim, et puis peut-être monter à Lhasa, si la chose est possible, parce que là, ça dépend
De nos jours politiquement.
Mais en même temps, vous savez quoi? Je vais aller vite, mais Lhasa, c'est plus le Lhasa qu'Alexandra a connu. C'est un Lhasa moderne, avec toutes ces autorités qui sont armées, puis qui sont dans les rues, des boutiques.
C'est ça,
je trouve que ce n'est pas l'image que je veux garder de Lhasa.
Oui, c'est le tourisme.
Tibet que je découvre avec Alexandra.
Oui, c'est ça. Bon, alors pour ça, il faut lire.
Il faut commencer par lire.
Quelques recommandations que vous pourriez nous faire pour, en fait, découvrir
Alexandra.
Bien sûr.
Je pense tout de suite au livre de Jeanne Mascolo de Filippi. Avec son livre, Alexandra Davinel, 100 ans d'aventure. Et puis, il y a des photos magnifiques parce qu'elle a fait toute une recherche. Donc, il y a une iconographie dans ce livre-là qui est vraiment très, très bien. Il y a un autre livre aussi qui a fait l'objet d'un ouvrage de Madame Joëlle Désiré-Marchand qui a fait une recherche incroyable pour reconstituer et cartographier tous les itinéraires de l'exploratrice. Donc, son livre s'intitule « Les itinéraires d'Alexandra Davinel ». Mmh. Et ensuite, c'est bien d'aller lire les livres d'Alexandra. Alors, évidemment, la correspondance avec son mari. Là, on comprend tout de suite le personnage. Et puis, il y a les souvenirs d'une Parisienne au Tibet. Il y a l'Inde où j'ai vécu. Il y en a quand même beaucoup. Il y a Voyage et aventure de l'esprit, que j'évoquais tout à l'heure. Immortalité et réincarnation. Ça fait partie de ses études. Et ce qui est intéressant quand on voyage, c'est que si on va à Kalimpong, j'emmène les gens à l'Institut de Tibétologie à Kalimpong. Là, on retrouve les écrits d'Alexandra. Donc, c'est intéressant. C'est, si les gens passent à Paris, aller au musée Guimet.
Oui.
Alexandra et le musée Guimet, là, c'est plus une nouvelle pour personne.
C'est ça. Oui.
Donc, il faut la lire. Il faut la lire. Regardez, vous tapez Alexandra Davinel sur Internet, YouTube.
Voilà. De toute façon, nous allons placer sur le site quelques-unes de vos recommandations. Mm-hmm. Et avant de nous quitter, vous nous faites une promesse. Alors, si vous organisez ce voyage, vous nous appelez.
Bien sûr. Vous en ferez partie, de toute façon.
Voilà, c'est fait. Martine, encore une fois, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bon voyage, à bientôt.
À bientôt.
Aujourd'hui, à la chronique « Le corps en marche », nous parlons de marche et de genoux. Nous sommes plusieurs à penser qu'il est préférable d'arrêter de marcher lorsqu'on a mal aux genoux. Ça nous semble tout à fait naturel. Mais est-ce la bonne chose à faire? Pour nous éclairer à ce sujet, j'ai comme toujours le plaisir d'accueillir en studio Michel Cousinat-Baudet, ostéopathe et entraîneur postural. Bonjour Michel!
Bonjour Denis! Effectivement, c'est une croyance qui est très répandue. En clinique, je rencontre souvent des gens qui ont peur de marcher dès que leurs genoux les font souffrir. Pourtant, les données scientifiques montrent que le mouvement, bien adapté, peut au contraire aider le genou.
Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons souffrir aux genoux en marchant?
Le genou, c'est l'articulation qui est située entre les deux plus longs bras de levier du corps. Donc, en haut du genou, on a le fémur, qui est l'os de la cuisse. Et en dessous, on a entre autres le tibia. Donc, souvent, le genou va être pris en otage un peu entre ces deux articulations-là. Donc, s'il y a une problématique au niveau de la hanche ou encore au niveau du pied, c'est le genou qui va s'adapter et subir les conséquences. Donc, un problème de genou, une douleur au genou, c'est pas nécessairement le genou qui est problématique. Ça peut provenir d'un déséquilibre dans la chaîne musculaire et articulaire.
Donc, la douleur ne vient pas forcément de là où on la ressent.
Exactement. La recherche montre que de petits ajustements dans la manière de marcher peuvent redistribuer les forces dans le genou là, et diminuer la douleur. Et ce, même chez les personnes qui souffrent d'arthrose légère à modérée. Donc, le genou, c'est souvent une victime collatérale et non pas le principal coupable.
Alors, Michel, avant de parler des changements à notre manière de marcher, pouvez-vous nous rappeler de quoi le genou est constitué?
Bien sûr, Denis. Donc, le genou, c'est une articulation qui est très importante, un peu comme une charnière de porte. Donc, il permet de plier et d'étendre la jambe. Mais contrairement à une porte, il y a plusieurs structures à l'intérieur qui vont absorber les chocs, stabiliser l'articulation.
Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve exactement?
Bien, on a trois os principaux. Donc, il y a le fémur, dont je parlais plus tôt, là, qui est l'os de la cuisse. Ensuite, on a le tibia qui est situé en bas du genou, donc dans le bas de la jambe. Mm-hmm. Et par-dessus le genou, donc en avant, on a la rotule, qui est un petit os rond qui va protéger le genou et améliorer l'efficacité du quadriceps, qui est le muscle devant la cuisse. Mm-hmm. Ensuite, à l'intérieur de l'articulation, on a des petits coussins et des stabilisateurs. Donc, les petits coussins, ce sont les ménisques, donc deux petits coussins en forme de croissant qui sont situés entre le fémur, qui est l'os de la cuisse, et le tibia dans le bas de la jambe. Et ces petits coussins servent d'amortisseur et aident à répartir le poids. Puis, on va trouver également des ligaments. Donc, il y en a quatre principaux, deux à l'intérieur, bien, un à l'intérieur, un à l'extérieur du genou, et des ligaments qui vont stabiliser la portion antérieure-postérieure, donc de l'avant à l'arrière. C'est le nom de tous ces ligaments-là, c'est pas très important, mais l'idée, c'est de comprendre que ça stabilise sur les côtés de l'avant à l'arrière pour pas que le tibia glisse par rapport au fémur.
Ah oui! Donc, plein de petites pièces qui doivent bien travailler ensemble.
Exactement. Et autour de tout ça, on a des muscles et des tendons. Donc, notamment le muscle quadriceps qui est situé à l'avant de la cuisse et les ischio-jambiers situés à l'arrière. Donc, ces muscles absorbent une partie de la charge quand on marche, quand on court, quand on descend une pente. Et si un de ces éléments-là fonctionne moins bien, c'est le genou qui va subir davantage de stress.
Donc, ça explique que le genou peut souffrir même si on n'a rien fait de particulier, là.
Oui. Oui. Et c'est pour ça que corriger la démarche et renforcer les muscles autour du genou peut réellement aider à réduire la douleur, sans passer par un arrêt complet de la marche. Alors, on pense que souvent, tout se joue dans le genou lui-même, mais en réalité, il n'y a pas de muscles à l'intérieur du genou. Ce sont les muscles autour, donc les cuisses, les fessiers, ainsi que les ligaments intrinsèques du genou, donc qui sont propres au genou, qui vont stabiliser, absorber les forces pendant la marche ou pendant la course. Et si ces muscles sont faibles, le genou devient une articulation qui est mal soutenue. Donc, sa charnière est mal soutenue et il peut bouger un peu de travers et devenir douloureux. C'est pour ça que renforcer les quadriceps, les ischio-jambiers, les adducteurs et abducteurs qui sont situés de chaque côté de la cuisse, ainsi que les fessiers, c'est comme si on donne des cordes solides à notre genou pour qu'il fonctionne correctement et sans douleur.
Donc, j'en reviens à ma question du départ. Quand on a mal au genou, on arrête de marcher ou non? Bonne ou mauvaise idée?
Je dirais, dans la majorité des cas, c'est une mauvaise idée. Et la science est très claire là-dessus. Arrêter complètement de bouger, ça peut aggraver la situation. Le cartilage du genou n'est pas bien nourri par les vaisseaux sanguins. Donc, il va se nourrir grâce au mouvement. C'est comme un mouvement de pompage là, à la marche.
Ah oui, donc le repos, ça n'aide pas.
Non. Une grande étude de cohorte a montré que les personnes qui marchent régulièrement développent moins de douleurs aux genoux, même dans les cas d'arthrose qu'on voit à l'imagerie, là. Donc, le message important, c'est de ne pas forcer, mais d'adapter la marche, pas de l'éliminer.
Bien, justement, parlons d'arthrose. Beaucoup de gens se disent « J'ai de l'arthrose, je ne devrais plus marcher. »
Ouais, c'est un mythe tenace, ça.
Ah oui, hein?
Ouais. Les données scientifiques montrent que la marche est non seulement sécuritaire, mais bénéfique pour la majorité des gens qui sont atteints d'arthrose du genou. Marcher va aider à maintenir la mobilité, renforcer la musculature et même ralentir la progression des symptômes.
Donc, l'arthrose ne veut pas dire immobilité.
Absolument pas. Certaines études montrent même que des variantes, comme la marche arrière, on en a déjà parlé les émissions antérieures, une marche arrière qui est intégrée à un programme de réadaptation, ça peut réduire la douleur et améliorer la fonction du genou. Alors, encore une fois, ce n'est pas marcher ou ne pas marcher, c'est comment on marche.
Mais il y a beaucoup de gens qui disent « tout allait bien jusqu'à la descente ». Pourquoi?
Ouais. parce que la descente, ça sollicite énormément le quadriceps, qui est le muscle à l'avant de la cuisse. C'est un muscle qui agit comme un frein pour empêcher le genou de plier trop vite. Donc, le résultat, c'est que la charge sur l'articulation du genou, elle augmente.
Donc, c'est pas juste une impression, là.
Non, 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 c'est biomécanique. Si les muscles sont faibles ou fatigués, le genou va encaisser davantage. C'est pour ça que le renforcement musculaire, combiné à la marche, c'est un élément clé pour protéger les genoux, surtout en terrain incliné.
C'est donc une question de muscles et pas uniquement du genou comme tel?
Mm-hmm. Oui. Beaucoup de gens négligent les muscles de leurs jambes. Pourtant, ces muscles-là jouent un rôle clé dans la santé du genou. Ils vont absorber une grande partie des forces à chaque pas et soulager directement l'articulation du genou. Donc, quand ces muscles sont forts, le genou est plus stable, mieux aligné et souvent moins douloureux. Mais ce n'est pas seulement une question de genou. La force dans les jambes, c'est aussi essentiel pour l'équilibre, la prévention des chutes, le maintien de l'autonomie en vieillissant. Donc, la recherche montre que la perte de force musculaire, c'est l'un des meilleurs prédicteurs de la perte de mobilité avec l'âge.
Ouais.
Parfois même plus que la douleur ou l'arthrose elle-même. Maintenir la force dans les jambes, c'est donc entretenir un véritable cercle virtueux. Plus les muscles sont forts, ça améliore la stabilité du genou, ce qui rend la marche plus confortable. Une marche plus confortable, ça encourage le mouvement. Plus on bouge, plus on entretient sa force, son équilibre et son indépendance.
Michel, vous avez mentionné plus tôt que de petits ajustements dans la manière de marcher peuvent aider à diminuer la douleur au genou, voire même le protéger.
Oui, oui. Dans mes lectures, j'ai trouvé plusieurs stratégies à explorer.
On vous écoute.
Oui. Donc, vous pourriez allonger légèrement la foulée de votre pas et marcher plus droit, donc vous redresser. Ce que ça change, c'est que ça évite la flexion excessive du genou quand le pied se dépose et ça va réduire les pics de pression sur le cartilage. Donc, au lieu de marcher des petits pas courts et rapides, allongez légèrement le pas, mais restez confortable et redressez le tronc.
Voilà.
Oui. Vous pourriez aussi faire des petits tests là, en modifiant comment votre pied se dépose au sol, en essayant de déposer le milieu du pied plutôt que le talon en premier. Ça va réduire l'impact direct sur l'articulation du genou lorsque le pied entre en contact avec le sol. Donc, vous pouvez imaginer que vous marchez souplement en posant le milieu du pied, puis vous déroulez le reste, le devant du pied, comme à l'habitude. Une autre option, ça serait d'augmenter légèrement la cadence du pas. Ce que ça change, plus de pas par minute égale chaque pas absorbe moins de force, donc moins de pression sur le genou. Et on peut faire ça sans courir, là. Donc, l'idée, c'est d'augmenter légèrement le rythme de la marche pour arriver peut-être à 5-10 pas par minute.
Donc, marcher un peu plus vite.
Exactement. Une autre chose, ça serait de tourner un peu le pied vers l'avant. Donc, il y a des gens qui vont avoir tendance à marcher avec le pied un petit peu en ouverture, mm-hmm, avec les orteils qui pointent à l'extérieur. D'autres personnes, c'est l'inverse. Les orteils pointent à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de venir orienter le devant du pied vers l'avant et ça va enlever une pression sur l'intérieur ou l'extérieur du genou, dépendant de comment vous déposez le pied à l'origine. Vous pouvez également penser à engager les fessiers, donc contracter légèrement les fessiers lorsque vous marchez. Ça va aider à absorber une partie du choc, donc avec la musculature des hanches. Donc, contracter un petit peu les fessiers, mais pas de façon exagérée. Là.
Pas trop raide. Là.
Pas trop raide, exactement.
Voilà. Bon, ben alors maintenant, je comprends mieux que de petits changements peuvent tout changer. C'est très encourageant, Michel.
Mm-hmm. Oui. Moi, je vous suggère d'explorer ces paramètres de marche. Donc, vous pouvez tester chacune des démarches que je vous ai mentionnées plus tôt. Puis, prenez-le comme une petite expérience. Donc, au début, vous exagérez volontairement le mouvement choisi pour mieux comprendre et ressentir ce que ça change dans votre corps.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, si je prends le premier point où on suggérait d'allonger la foulée, vous pourriez commencer par faire de petits pas rapides avec les genoux un peu fléchis. Tu sais, vous l'exagérez, là, petit
oui,
plié,
oui.
Et prendre le moment de ressentir ce qui se passe dans vos genoux. Et ensuite, vous redressez votre haut de corps. Et là, vous allongez la jambe au maximum à chacun des pas pour, encore une fois, ressentir. Puis là, l'idée, c'est de revenir à quelque chose qui est entre les deux.
D'accord.
T'sais, on exagère pour vraiment mettre en lumière ce que ça change, puis après, on reste plus modéré. Là. Mm-hmm. Si je prends l'exemple de l'orientation du pied,
oui.
Même chose, vous allez avec les orteils vraiment à l'extérieur. Puis là, vous observez ce que vous sentez dans le genou. Généralement, vous allez sentir de la tension plus sur un des côtés du genou.
Ah tiens, oui.
Et ensuite, vous faites l'inverse, vous allez trop à l'intérieur, mm-hmm. observer. Puis, pour marcher, t'sais, quand vous allez vraiment marcher avec ça, c'est le pied en avant. Là. C'est pas à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est
voilà.
Les orteils orientés vers mm-hmm. l'avant. Donc, c'est des petites façons d'adapter et d'explorer pour voir ce qui est le mieux pour vous, ce qui vous donne le moins de tension sur le genou.
Et dans tout ça, on s'amuse un peu quand même.
Mais oui, toujours.
Comme toujours. Alors, Michel, si on résumait.
Oui. Alors, il faut se rappeler, le genou n'est pas toujours le vrai responsable de la douleur. Hein? Donc, si vous avez mal au genou, c'est toujours une bonne idée de consulter un professionnel qui pourra vous aider à comprendre l'origine de cette douleur. Il y a des cas où c'est vraiment le genou, là.
Oui.
C'est bon. Mais plus souvent qu'autrement, ça peut être une compensation d'une autre structure dans le corps. Ça peut être la démarche également, ou une faiblesse musculaire au niveau des muscles des jambes. Ensuite, arrêter de marcher, généralement pas la solution. Donc, moi, je vous encourage à poursuivre, même si ça veut dire que vous marchez plus lentement, moins longtemps, ou que vous ajustez votre démarche. Et ça va aider à redistribuer les forces dans le genou et potentiellement diminuer la douleur. On se rappelle que la marche, ça peut même aider à prévenir et à mieux gérer l'arthrose du genou.
Oui.
Le renforcement des muscles de la cuisse et des fessiers, ça va améliorer la stabilité du genou. Ça va rendre la marche plus confortable. Une marche plus confortable encourage le mouvement. Plus on bouge, plus on entretient la force, son équilibre et son indépendance. Donc moi, je vous encourage vraiment à tout mettre en œuvre pour continuer à marcher tout au long de votre vie. La marche, ce n'est pas juste une activité physique, c'est un véritable investissement en santé, mobilité et longévité. Entretenez votre capacité à marcher. Votre corps vous en remerciera.
Comme toujours. Ben, merci encore une fois, Michel, pour une autre chronique qui nous rassure là, et qui remet le corps en marche, comme vous dites.
Exact.
À bientôt, Michel.
À bientôt, Denis. Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Martine Brouillot et Michel Cousinat-Baudet. Merci également à Lysandre Duplé à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le tout nouveau site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée d'Alexandra David-Nel. « Celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas. » Il se déplace. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.